un paradoxe chez les amphibiens que l'on pourrait nommer le paradoxe de la grenouille. Les amphibiens sont des organismes d'une incroyable souplesse adaptative et pourtant, ce sont parmi les espèces les plus menacées par l'anthropisation de leurs habitats. Si l'on continue à découvrir chaque année de nouvelles espèces d'anoures, une large partie est immédiatement classée en danger d'extinction. Les amphibiens sont une classe qui a toujours passionné les sciences, autant la biologie, la physique, pour l'incroyable plasticité de leur langue, la médecine, mais aussi l'embryologie et la toxicologie pour leur réaction très vive aux perturbateurs endocriniens, sans parler bien sûr de la grenouille météo. Amphibien, un monde entre deux eaux, c'est le programme humide qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette vaste classe que l'on appelait autrefois batracien, renommée amphibien pour des raisons que nous allons vous expliquer dans quelques instants, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Sercollet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes herpétologue et chargée de médiation scientifique en herpétologie de la faune française au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et nous sommes en ligne depuis Montpellier avec Claude Miot. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur d'études de l'École pratique des hautes études et chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Vous pouvez suivre cette émission comme d'habitude et bien sur votre mode d'écoute favori, en direct, en différé, en podcast et puis surtout en complément en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors peut-être lever tout de suite le suspense, Claude Miot, pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de batracien aujourd'hui ?
On a modernisé cette terminologie il y a déjà un moment en utilisant le terme d'amphibien, le terme pour désigner le fait qu'ils vivent dans différents milieux, et en particulier le milieu aquatique et ou le milieu terrestre. Vous avez dit en introduction, c'est des animaux en effet de milieu humide. Je pense qu'on aura l'occasion de voir à l'occasion de cette émission que... Eh bien, ils sont des traits de vie très très différents et que certains se sont même complètement affranchis de ce milieu aquatique.
Françoise Sercollet, à quoi ça correspond cette grande classe des amphibiens ? Parce qu'on trouve des organismes très très divers. C'est une grande famille. C'est une grande famille de l'arbre phylogénétique.
Alors, tout à fait, on va déjà trouver ce que l'on appelle les urodèles, donc les caudata, c'est-à-dire que ce sont les salamandres, les tritons, donc des animaux qui gardent leur queue à l'état adulte. Et nous avons également ce que l'on appelle les anoures, donc les anoures, ça vient de A qui est privatif en latin et nour qui est donc la queue. Donc ce sont des organismes qui perdent leur queue, entre guillemets, perdent à l'état adulte. Et puis il y a une autre branche également qu'on appelle les gymnospones, que l'on trouve notamment en Guyane par exemple, donc dans les pays tropicaux, donc exotiques, chauds. Et ce sont des animaux qui n'ont pas de pattes.
D'accord. Et comme vient de le dire Claude Miot, finalement, amphibiens, finalement, certains ont perdu... j'ai l'impression qu'on a... perdu nous-mêmes un peu de son, manifestement un petit problème de console. Je vais essayer avec un autre micro. Est-ce que vous m'entendez sur ce micro-là ? Manifestement pas. Ça y est, sur ce micro-là, ça fonctionne à nouveau. Nous avons des petits problèmes de console qui mettent en panique notre réalisatrice, notre ingénieur du son, Élise Lemay. Tout va bien, nous sommes toujours là. La question que je voulais poser, c'était la notion de amphibien. Amphibien, évidemment, on pense à la fois dans l'eau et sur la terre. Mais comme l'a dit Claude Miot, toutes ces espèces ont perdu parfois ce rapport au milieu humide.
Alors oui, il y a certaines espèces comme par exemple certaines salamandres qui vivent dans les Alpes, franchement en haute altitude, qui se sont complètement affranchies du milieu aquatique, où les femelles vont donner naissance à des larves qui sont complètement formées et qui sont finalement des juvéniles qui ressemblent totalement à l'adulte, mais en plus petit bien évidemment.
Claude Miot, dans l'arbre justement, puisqu'on fait un peu de phylogénétique, dans le phylogénétique, où se situe cet ordre des amphibiens ? À quand remonte finalement la sortie des eaux, ce qu'on appelle la sortie des eaux pour les vertébrés, puisque c'est ce dont il est question ?
Oui, alors ces amphibiens sont en effet des vertébrés anciens, sont bien antérieurs aux reptiles bien connus comme les dinosaures, on peut remonter jusqu'à plus de 400 millions d'années. Et en effet, c'est aussi, ils sont présentés comme étant un peu à l'origine de tous les vertébrés terrestres. Hein. On voit très bien cette représentation d'amphibiens primitiques qui sont en train de conquérir le milieu terrestre, hein, en gardant cette le fait d'être inféodés au milieu aquatique pour la reproduction. Et puis, eh bien, progressivement, ils se sont affranchis de ces zones lagunaires, de, on voit bien l'origine, évidemment, marine de la vie, pour conquérir les milieux aquatiques terrestres. Et puis, après, progressivement, eh bien, comme le vient de le dire Françoise, arriver à s'affranchir complètement du milieu aquatique en ayant un développement des jeunes internes et une mise bas de petits complètement développés qui ressemblent à l'adulte. Donc voilà, c'est une longue histoire, et au cours de cette longue histoire, eh bien, les amphibiens ont fait preuve d'une grande créativité, de différentes formes de traits de vie ou même de modalités de la reproduction.
J'ai lu qu'une étude qui a été publiée dans PNAS en 2017 montre que, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, le groupe, la sortie des eaux, on la situe à 400 millions d'années, mais que le groupe a bénéficié, comme beaucoup d'autres espèces, et notamment les mammifères, de l'extinction du Crétacé, de l'extinction Katé, pour se diversifier énormément. Claude Millot ?
Oui, il y a des épisodes au cours de l'évolution des amphibiens, de grandes augmentations du nombre d'espèces. C'est lié en effet à des cycles d'apparition de ces différentes formes, de l'apparition de nouvelles niches, hein, sur le milieu terrestre qui permettent à cette diversification, ou au contraire, eh bien, le regroupement sur certaines aires plus limitées qui va générer de la créativité, hein. Si toutes les espèces se retrouvent sur un espace limité, eh bien, avoir tendance à utiliser des niches qui ne l'étaient pas, hein, donc on va avoir des centres de spéciation. Voilà, après, suite aux alternances climatiques, hein, des périodes glaciaires, les périodes interglaciaires, tout ça a favorisé des changements d'aire de répartition, et puis l'apparition de nouvelles espèces. Il y a de très bons exemples à proximité des grands massifs montagneux, par exemple autour de l'Himalaya, autour des Appalaches, où on peut retracer l'histoire évolutive des espèces, où, eh bien, suite à une glaciation, on imagine bien que les espèces ont tendance à être réfugiés plutôt au sud de ces massifs montagneux. Et au moment de la déglaciation, il y a une reconquête vers le nord de ces espaces. Et au fur et à mesure de la rencontre de conditions écologiques différentes, il y a apparition de nouvelles espèces. Et on voit autour de ces massifs montagneux des sortes de couronnes d'espèces dont on peut retracer ainsi l'histoire. Donc là, c'est à la fois ces capacités de colonisation, la rencontre avec des environnements différents qui ont généré cette diversité.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Voilà, nous parlons des amphibiens dont font partie les grenouilles et les crapauds notamment, mais aussi les salamandres, les axolotes, toute une diversité d'espèces, et on va voir que c'est un ordre très très large. Nous en parlons avec Françoise Sercollet qui est avec nous ici à la Maison de la Paris, à la Maison de la Radio à Paris, ça va un peu vite quand même, et avec Claude Millot qui est en ligne avec nous depuis Montpellier. Une question peut-être très simple, peut-être très bête, Françoise Sercollet, déjà pour commencer, la différence entre un crapaud et une grenouille?
Alors ça, c'est une question qui est pas bête du tout. C'est vrai que crapaud, grenouille, c'est un peu la même chose, sauf qu'on fait un petit peu la différence de façon vernaculaire entre une grenouille et un crapaud. À savoir que une grenouille, déjà, ça a une peau relativement lisse, et les grenouilles, elles ont de grandes pattes postérieures développées qui sont notamment adaptées au saut. Et derrière les yeux, elles n'ont pas de glandes à venin comme l'ont les vrais crapauds, comme le crapaud commun ou le crapaud calamite, notamment en France, où là, vous avez donc derrière les yeux de ces animaux, donc des glandes, qui sont donc des glandes appelées glandes parotoïdes, et qui fabriquent donc du venin. Parce qu'il faut pas oublier que les amphibiens, par définition, ce sont des animaux venimeux, passifs, donc qui ne vont pas injecter du venin comme chez les serpents, où là on va parler d'animaux venimeux actifs. Là on parlera d'animaux venimeux passifs. Donc les crapauds, eux, les vrais crapauds, ils ont donc ces glandes donc derrière les yeux, et ils ont également une peau, je dirais, un peu granuleuse, voire épineuse pour certaines espèces. Et ils ont également donc des pattes postérieures qui sont pas franchement adaptées au saut, même si certaines espèces vont faire quelques petits bonds comme ça, comme les crapauds communs. D'autres espèces, comme le crapaud calamite, vont courir. Et c'est vrai que rien qu'au déplacement d'un crapaud calamite, on sait que c'est cette espèce, parce qu'on dirait une petite souris qui cavale. C'est très rigolo. Voilà.
L'aspect venimeux passif, Claude Millot, c'est l'un des traits communs, parce que encore une fois, on parle d'un ordre, donc on est très haut dans le classement phylogénétique du vivant. Quels sont les autres traits communs que l'on peut définir à l'ensemble de ces amphibiens?
Oui, en effet, on peut rester quelques minutes sur l'aspect des venins, parce que c'est un aspect très important et très intéressant chez les amphibiens. Bon, on connaît souvent le venin des dendrobates, hein, ces petits amphibiens qu'on trouve en Amérique du Sud, que les indigènes utilisent pour leurs flèches, hein, en passant l'extrémité de la flèche sur l'épiderme de ces amphibiens, récupérant ainsi le venin qui va être utilisé après pour chasser, par exemple, des petits singes. Donc, ces amphibiens, pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ils sécrètent ce venin? Ils ne l'utilisent pas comme avec les serpents, par exemple, pour capturer une proie. Hein, on comprend qu'un serpent, il a besoin d'avoir un venin qui est extrêmement puissant quand il mord une souris pour que la souris ne galope pas pendant trop longtemps pour pouvoir la retrouver. Donc, ce venin est très puissant, il tue la souris, elle tombe pratiquement morte dès qu'elle est touchée, il peut la récupérer. Pour l'amphibien, c'est pas du tout le cas. L'amphibien, il va plutôt utiliser ce venin comme sa propre protection. Donc, il faut qu'il informe ses prédateurs potentiels que lui-même est venimeux. Donc, il va utiliser des couleurs fortes, et c'est souvent pour ça que ces petites grenouilles, ces dendrobates, sont très colorées, parce que c'est la manière, non pas pour faire plaisir aux photographes animaliers, même si c'est le cas, mais c'est surtout pour informer les prédateurs potentiels que, eh bien, il y a un risque à les consommer.
Grenouilles, crapauds, salamandres, c'est un peu vrai, François Sercollet, ouais. Et puis c'est une règle implicite pour qui a déjà marché un peu dans la jungle: plus c'est coloré, plus c'est dangereux. C'est une sorte de règle un peu tacite que l'on retrouve dans beaucoup d'espèces.
Absolument, et c'est ce que l'on appelle notamment des couleurs aposématiques. Et en France, on a différentes espèces qui vont utiliser notamment ces couleurs. Je pense effectivement à la salamandre noire et jaune. Donc ce jaune, c'est vraiment une couleur d'alerte. Mais vous avez également un autre petit amphibien, un petit anoure que l'on appelle le sonneur à ventre jaune, et qui, lui, sur sa face dorsale, une couleur relativement terne. Par contre, au niveau du ventre, il va y avoir du jaune, au niveau des pattes également. Et donc, quand il est dans l'eau, et ben les poissons, vu qu'il nage, donc les poissons qui sont dessous voient cette couleur, donc n'attaquent pas notamment l'amphibien. Et quand il se trouve sur terre, il va adopter notamment une position que l'on appelle le réflexe d'uncle, à savoir que il va se mettre comme ça en lordose, de façon...
C'est-à-dire en creusant, parce que vous faites les mouvements, mais on n'a pas l'image. Vous êtes en train d'imiter remarquablement ce petit amphibien.
Donc, toujours
en creusant le dos avec les épaules. Voilà.
Et de façon à montrer donc ces couleurs jaunes qui sont aposématiques et qui disent aux prédateurs: attention, danger, si tu me manges, tu vas le sentir passer.
Claude Millot, excusez-moi, je vous ai interrompu tout à l'heure. Je vous laisse poursuivre.
Non, vous me faites regretter de ne pas être avec vous à Paris pour assister à la démonstration.
Et nous donc.
Non, je voulais dire que il y a donc en effet l'utilisation de ce venin, on le voit en termes d'antiprédateurs. Il y a aussi des espèces pour lesquelles les colorations ne sont pas si aposématiques que ça, je dirais, mais il y a quand même la présence de venin, donc de sécrétion de glandes cutanées, et on va actuellement vers des résultats qui montrent que ces venins seraient aussi susceptibles de faire une protection pour l'animal, en particulier envers des pathogènes cutanés. cutanées, des chytrides, des virus, etc. Donc voilà, il y a certainement aussi une utilisation, voilà, de d'autres utilisations possibles de ces sécrétions cutanées.
Alors outre ces venins et qui sont liés, on l'a entendu justement à souvent à des colorations très vives, hein, ce qu'on appelle l'aposématisme, c'est-à-dire le fait d'envoyer un signal soit chimique, soit visuel, soit lumineux en l'occurrence pour prévenir finalement les prédateurs ou le milieu d'une caractéristique particulière, en l'occurrence d'un danger. Quels sont les autres caractéristiques commun de ces amphibiens, notamment on peut peut-être aborder celui des modes de reproduction qui sont systématiquement externes, Claude Millot.
Oui, donc on peut partir sur le schéma quand même classique de l'amphibien, comme ce qui a amené justement son nom. Donc les adultes, hein, donc des sexes séparés, un mâle et femelle, parfois avec des caractères sexuels secondaires qui permettent de les différencier. Et ces amphibiens qui ont une vie terrestre, hein, ils ont des poumons, ils respirent l'air, eh bien ils ont l'obligation d'aller se reproduire dans l'eau. Donc ils font parfois des migrations pour aller dans ces sites. C'est d'ailleurs le moment où on est susceptible de les voir, hein. En France, en Europe, eh bien, on peut assister à ces migrations au printemps de ces amphibiens vers les sites aquatiques, où là, parfois, ils ont à traverser des routes et c'est là où ils se font écraser. Donc, ils se retrouvent dans le milieu aquatique. À ce moment-là, les mâles et les femelles, eh bien, doivent se rencontrer. Et pour se rencontrer, eh bien, il y a différentes techniques, je dirais. Donc, il y a soit des parades nuptiales, complexe chez les tritons par exemple, avec un jeu d'émission de phéromones et puis de signaux vibratiles et visuels. Le but du jeu de cette parade nuptiale complexe, c'est évidemment que deux individus qui vont se reproduire entre eux fassent partie de la même espèce. Hein, quand on est dans une mare complètement terne, boueuse, avec aucune possibilité de vision, ben on comprend qu'il y a un risque, et qu'il y a plusieurs espèces de tritons par exemple, il y a un risque que certaines puissent commencer une parade nuptiale avec une autre espèce. Donc la complexité de cette parade va limiter ces risques. Une fois que la parade nuptiale est accomplie, ben, il y aura un transfert de produits sexuels. Donc le mâle va déposer un spermatophore. Spermatophore, c'est un petit sac qui contient les spermatozoïdes que la femelle va récupérer dans son cloaque. Et donc il y aura une fécondation interne. Et puis donc dans les conduits génitaux de la femelle, ben, vont se développer les ovocytes qui seront fécondés et pondus sous la forme d'œufs. Pour les grenouilles, eh bien, on va avoir un amplexus. Alors là, il y a toute une variété de la manière de réaliser cet amplexus. L'amplexus, c'est la manière dont le mâle agrippe la femelle, en quelque sorte, pour former le couple. Et puis, eh bien, mâle et femelle vont produire leurs produits sexuels, spermatozoïdes et ovocytes, en même temps. Donc, à l'extérieur, les œufs vont être fécondés. Et puis, on va avoir une ponte de type cordon chez les crapauds, excusez-moi, ou de type boule. Deux, sorte d'amas 2, de masse 2 chez les grenouilles. Et donc là commencera alors la deuxième vie en quelque sorte des amphibiens, suite à la vie sous la forme d'œufs, et bien sous la forme de têtards. Ces têtards, ces petites larves vont se développer. Têtards, hein, ça veut dire grosse tête en quelque sorte, vont acquérir des pattes. Et puis, arriver à la troisième période de leur vie, très importante, qui va être la vie juvénile, à savoir que ces têtards aquatiques vont perdre leur queue et vont s'en transformer en petits crapelets ou en petits tritons terrestres, qui va donc gagner le monde extérieur à l'eau. Et donc là commencera sa vie terrestre sous forme de juvénile. Puis après, une fois qu'ils auront acquis la maturité sexuelle, eh bien, ils reviendront vers le milieu aquatique pour se reproduire. Donc on a ce cycle-là qui est on parle de cycle complexe, parce qu'il y a une succession de phases vraiment très très différentes. On parle d'un moment où on a plutôt une vie aquatique, hein, comme un petit peu un petit poisson, jusqu'à avec des branchies. Donc une respiration branchiale en utilisant l'oxygène de l'eau, à un animal bien juvénile ou adulte qui lui là eh bien va avoir un épiderme qui lui permet de résister à l'atmosphère aérienne, des poumons pour respirer et puis une alimentation de petits prédateurs par exemple. Donc c'est vraiment une diversité de vie très 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 grande, et évidemment les transitions hein, le passage de l'œuf à la larve ou le passage de la larve au juvénile. Ces périodes de transition sont des périodes très étudiées par les biologistes parce que évidemment il s'y passe des phénomènes physiologiques, passer de l'eau à la terre. Ça sous-entend ben, des transformations qui intéressent évidemment l'ensemble des biologistes, hein, que ce soit de la biologie fonctionnelle ou la biologie plus de type écologie.
Et on va revenir hein, sur cette métamorphose qui est évidemment assez passionnante, parce que c'est vrai que quand on parle d'amphibiens, ça ne sont pas des organismes qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre, ce sont des organismes qui se transforment, qui commencent, qui ont différents cycles, mais qui sont à un moment donné aquatiques et qui deviennent terrestres. Ça n'est pas la même chose, Françoise Sercollet.
Ben, ça dépend des espèces, parce que notamment en France, il faudrait aussi faire un petit focus sur une espèce qui est très sympathique, que l'on appelle l'alite accoucheur, où là, toute la reproduction a lieu d'abord sur Terre. C'est-à-dire que ben, les mâles vont appeler les femelles vont répondre, ce qui est assez surprenant parce que généralement chez les anours, ce sont surtout les mâles qui chantent pour appeler les femelles.
Les anours, je rappelle que c'est la famille des grenouilles crapauds. Voilà, c'est sans la queue.
C'est sans la queue. Et donc du coup, lorsque donc une femelle se présente, donc le mâle va attraper notamment la femelle au niveau donc je dirais des hanches, dans ce qu'on appelle un amplexus lombaire, pour reprendre le terme d'amplexus, à savoir que le mâle s'accroche donc à la femelle. Et là, avec un mouvement donc de va-et-vient, il va masser notamment les flancs de la femelle. Et avec ses orteils, il va aller chatouiller donc le cloaque donc de la femelle afin que celle-ci puisse expulser donc tout son cordon d'ovocytes qu'il va récupérer parce que il a mis ses pattes de façon à former une espèce de cuvette finalement dans laquelle va se retrouver donc la ponte et là il va jeter son sperme donc sur ses ovocytes pour pouvoir les féconder et tout ça a lieu sur Terre. Donc c'est vraiment extraordinaire et le mâle après va essayer de récupérer notamment cette ponte en plongeant alternativement donc ses pattes dans ce cordon et il va finalement se tricoter donc cette ponte au niveau de ses chevilles. Et là, il récupère notamment la ponte. Il peut même en récupérer une deuxième d'une autre femelle. Donc, c'est vraiment des super papas crapauds. Et il va s'occuper notamment de cette ponte jusqu'au moment de l'éclosion. Et tout ça sur Terre. Donc, dans la journée, il est caché dans les cavités, etc. Et le soir, il va ressortir, pour manger, pour aller éventuellement humidifier donc sa ponte. Et quand les petits têtards qui sont notamment dans les capsules vont être prêts à l'éclosion, ça doit bouger au niveau des pattes. Et là, du coup, le mâle, il le sait, il part à la mare. Il plonge dans l'eau et là les petits têtards qui sont donc dans des capsules parce que ça a rien à voir avec l'amas de grenouilles tel qu'on le connaît vont fabriquer notamment une espèce de substance corrosive qui va bouffer notamment la capsule de façon à ce que les petits têtards puissent émerger notamment dans le milieu aquatique et là comme tout têtard qui se respecte ils vont respirer avec des branchies qui sont cachés sous un repli cutané et ils vont vivre là leur temps de têtard jusqu'à la métamorphose et jusqu'à ce que toutes les chamboulements liés à cette fameuse métamorphose, à savoir l'apparition des pattes, et l'animal après passera d'un milieu aquatique à un milieu terrestre avec une respiration pulmonaire, comme l'a très bien expliqué Claude.
On va reparler de cette métamorphose, juste peut-être une question Claude Miot, tous les amphibiens sont ectothermes ?
Oui, je pense, ectotherme. Bon, faut se méfier de grandes généralités en biologie parce que le merveilleux de notre métier, c'est en effet de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais quand même, je serais relativement prudent et confiant de dire que tous les amphibiens sont ectothermes, à savoir que leur température corporelle dépend de la température de l'environnement. Hein, ils ne sont pas capables de réguler eux-mêmes leur température.
Ce qui a pour conséquence qu'ils hibernent aussi.
Oui, voilà. Donc, il va falloir, en effet, dans les endroits où la température baisse, eh bien, pouvoir lutter contre ces caractéristiques hivernales. Ça nous emmène sur un sujet très très intéressant concernant les amphibiens, c'est en effet leur capacité soit de geler, soit d'éviter de geler. Hein. Donc comment faire pour passer l'hiver quand on est un amphibien? Mais je voulais prolonger le propos de Françoise à propos des caractéristiques de la reproduction. En effet, il y a ce merveilleux petit crapaud qu'on a en France.
Dont on vient de mettre une photo sur le fil Twitter de l'émission. Là, à l'instant, vous pouvez aller voir l'alite accoucheur. On a une magnifique photo d'accouplement.
Voilà, avec ses soins parentaux très forts, hein, ce mâle qui va s'occuper de la ponte pendant longtemps et qui est garant du succès de cette reproduction. Et donc, je voulais quand même dire un mot sur d'autres amphibiens qui ont des soins parentaux et extraordinaires, comme qu'on peut trouver par exemple chez les dendrobates, hein, donc en Guyane. Hein, ce sont aussi des amphibiens de France. Donc, ce sont pour certaines espèces qui sont arboricoles, eh bien, elles pondent leurs œufs dans les petites cuvettes d'eau gardées dans les broméliacées, hein, dans ces plantes qu'on va trouver épiphytes sur les arbres. Et donc on imagine bien qu'il y a une toute petite quantité d'eau là qui est au cœur de cette broméliacée. Donc la femelle va venir pondre un œuf fécondé, et puis il va y avoir un têtard ou deux têtards à la rigueur qui vont être capables de survivre, mais on comprend bien que la quantité de nourriture est très limitée. Donc régulièrement, la femelle va revenir et va pondre un ovocyte, un œuf non fécondé, afin d'alimenter son têtard qui est dans cette petite cuvette. Donc c'est quand même un magnifique exemple également de soins parentaux chez les amphibiens.
Françoise Sercollet, peut-être, j'aimerais qu'on dise un mot, parce qu'on est bientôt déjà à la moitié de cette émission, mais j'aimerais qu'on dise un mot tout de même sur cette faculté justement qu'ont les amphibiens de geler dans les parties du globe où ils se situent, où il y a une baisse des températures, notamment sur des systèmes circulatoires parfois très très originaux, avec un système court et un système long chez certaines grenouilles.
Alors, c'est vrai que vous avez certaines espèces qui vont même complètement geler. Je pense notamment à la grenouille des bois qui vit au Canada, où cet animal finit en bloc de glace. Mais franchement, on dirait vraiment un bloc de glace. Il est complètement gelé.
Oui, imaginez, en biologie, c'est très très complexe, parce que le froid, ça fait exploser les cellules. Enfin, c'est vraiment très très complexe.
Et notamment, l'animal fabrique notamment un antigel. Et cet antigel va permettre aux cellules de ne pas geler. Et l'animal, il suffit de, je dirais, quelques rayons de soleil pour faire fondre la glace. Et là, on voit carrément l'animal revenir à la vie. Donc, c'est merveilleux, quoi. J'irais voir cette cryogénie, c'est franchement extraordinaire. Mais en France aussi, hein, on a notamment la grenouille rousse, par exemple. C'est une bête qui monte jusqu'en Scandinavie. Donc elle aussi, elle a un système notamment pour lutter contre le gel. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve à la fois chez les amphibiens, mais on le trouve également chez les poissons. Les poissons qui vivent en Antarctique, c'est pareil. Ils ont aussi ce système d'antigel.
Claude Millot, peut-être un mot sur, parce qu'on parle beaucoup des anours, un mot peut-être à propos des urodèles. Aujourd'hui, les urodèles, donc, qui sont plutôt la famille des salamandres, ont complètement perdu la partie aquatique de leur mode de reproduction, le lien avec les zones humides ou pas du tout?
Ah non, les salamandres sont en effet une grande, grande famille, ont gardé pour de nombreuses espèces le milieu aquatique comme milieu indispensable pour leur cycle vital, mais on y trouve aussi certaines qui ont réussi à s'en affranchir complètement. Et donc pour une salamandre comme la salamandre tachetée dont on a déjà parlé, cette belle salamandre qu'on peut trouver dans nos forêts, noire et jaune, eh bien cette salamandre réalise donc un accouplement en milieu terrestre. Là, on a affaire à quelque chose de mixte, hein, entre le développement des larves qui va être aquatique et la fécondation qui est terrestre. Donc on a la même parade, un petit peu moins complexe, on va dire, le même transfert des spermatozoïdes que celui que j'ai décrit chez les tritons. Hein, les mâles et femelles donc vont réaliser un amplexus. Hein, le mâle va saisir la femelle avec ses membres antérieurs. Il va déposer un spermatophore sur le sol. Donc là, le sol terrestre, hein, dans une forêt par exemple. La femelle va récupérer ce spermatophore et féconder ses ovocytes. Mais là, il n'y aura pas la ponte immédiate, comme on l'a observé chez les tritons, eh bien la femelle va garder ses ovocytes qui vont se développer. Alors souvent, cet accouplement a lieu à l'automne, donc pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver, eh bien les œufs vont se développer, les larves vont éclore, mais là dans les voies génitales de la femelle, et puis au printemps, tout au début du printemps, eh bien les larves seront suffisamment grosses pour qu'elles puissent se développer en milieu aquatique. À ce moment-là, les femelles feront une migration du milieu terrestre vers les ruisseaux, vers les mares, où elles y déposeront ces larves aquatiques, donc déjà relativement bien développées, je dirais. Et puis si on est dans un milieu où l'hiver est beaucoup plus long, comme par exemple en milieu de montagne, où les ruisseaux sont froids, ce qui ne permettrait pas à la larve de se développer rapidement, et bien à ce moment-là, la larve va garder dans son corps ces larves pour qu'elles se développent, qu'elles deviennent les plus âgées. Et puis à ce moment-là, et bien elle va même s'affranchir complètement du milieu aquatique, elle va leur donner naissance. Ces jeunes vont avoir leurs branchies qui vont se diminuer très, très fortement au moment de cette naissance, en quelque sorte. Et puis, ils vont acquérir immédiatement la respiration pulmonée. Donc, ils seront des petits développés. Donc, on parle de reproduction vivipare. Cette salamandre s'est affranchie du milieu aquatique. Voilà. Et on trouve, en Amérique du Nord, où il y a beaucoup plus d'espèces de salamandres qu'en Europe, on peut trouver aussi des espèces qui vont pondre leurs œufs, mais en milieu terrestre, dans les forêts, dans la litière de la forêt, sous un tronc d'arbre, eh bien la femelle va pondre ses œufs qui vont rester évidemment dans un environnement relativement humide, on va dire. Il faut quand même rester ils restent quand même relativement inféodés au milieu aquatique, ce qui peut les différencier par exemple des lézards qui vont être capables eux de fabriquer des œufs qui seront avec des enveloppes résistantes justement complètement affranchies du milieu aquatique. Donc voilà, on va avoir aussi ces salamandres, très très nombreuses espèces qui pondent leurs œufs en milieu terrestre. Souvent le mâle ou la femelle reste à proximité pour les garder. Donc là encore, on assiste à des soins parentaux assez importants. Et puis de ces œufs vont naître des petits complètement terrestres. Là, ils seront complètement affranchis du milieu aquatique.
François Sercollet, ça reste une exception par rapport au règne général des urodèles.
Disons que moi, ce que je voudrais surtout faire remarquer, c'est que la salamandre, c'est vraiment un animal terrestre. Et beaucoup de gens pensent que quand ils trouvent des salamandres comme ça, piégées dans leur cave ou dans des regards, etc., l'idée, c'est d'aller les remettre dans l'eau. Et la salamandre, elle est pas faite pour nager. D'ailleurs, les mâles ne retournent jamais dans le milieu aquatique. Seules les femelles vont mettre bas, notamment dans le point d'eau. Et tout ça, c'est dû aussi à leur morphologie. Quand on regarde une queue de salamandre, la queue, elle est cylindrique. Donc l'animal, il a vraiment des difficultés, notamment à nager, alors que le triton, lui, il est vraiment semi-aquatique. Et d'ailleurs, sa queue, elle est aplatie latéralement, de façon à servir de rame, finalement, à la bête quand elle est dans l'eau. Donc, quand vous voyez des salamandres, s'il vous plaît, ne les jetez pas dans l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai que au niveau des migrations, on assiste à des migrations, notamment au mois d'octobre pour la reproduction. Et les mâles, quand ils recherchent les femelles, et ça, c'est valable également pour les anoures, ils se redressent comme ça sur leurs pattes antérieures, de façon à voir au loin s'il y a des femelles dans le coin, etc., etc. Et là, ils se mettent surtout sur les routes, notamment, et donc ils ne bougent pas comme ça en position, dans cette position-là, et du coup, ils se font écraser très, très, très facilement. Donc, du coup, c'est vrai qu'en période de migration, que ce soit pour les grenouilles, les crapauds, etc., mais également pour les salamandres, il faut être extrêmement prudent de ne pas faire de ces animaux des crêpes. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, il faut, c'est vrai, les éviter, mais il faut surtout ralentir également sa vitesse de manière à ce que le souffle ne tue pas la petite bête. Et ça, c'est valable pour toute la petite faune.
Le souffle, c'est-à-dire ?
Le souffle de la voiture.
Du passage de la voiture.
Voilà, du passage de la voiture.
Ça peut les...
Ah oui, ça les tue. Et j'ai trouvé souvent des bêtes mortes sur le bord de la route qui étaient absolument intactes, qui n'avaient pas de blessures et qui étaient certainement tuées par le souffle des voitures.
Et on va voir qu'effectivement, les routes sont un des nombreux périls qui menacent cet ordre des amphibiens dont nous continuons à parler dans quelques instants. I met a girl, she was a frog princess. I guess I ought to make it clear that I saw nothing through her see-through dress until she whispered in my ear. The Frog Princess de Divine Comedy, la princesse grenouille, puisque c'est ce dont il est question tout au long de cette heure de l'ordre des amphibiens, dont font partie les grenouilles, les crapauds, les salamandres, quoi d'autre, les tritons, les axolotes, bref. Beaucoup d'espèces dont il est question tout au long de cette heure, grâce à Françoise Serre-Collet, qui est herpétologue et chargée de médiation scientifique en herpétologie de la faune française au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est avec nous ici en studio à Paris, et Claude Mio, qui est en ligne avec nous depuis Montpellier, qui est directeur d'études de l'École pratique des hautes études et chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Alors avant de parler des applications, et on va voir que ce règne des amphibiens intéresse un grand nombre de disciplines scientifiques, notamment la médecine. J'aimerais tout de même qu'on dise un mot, Claude Mio, sur la métamorphose, c'est-à-dire le passage finalement du stade de tétard à celui de juvénile puis d'adulte. Aujourd'hui, cette métamorphose, elle est bien documentée génétiquement? On en connaît vraiment tous les mécanismes?
Oui, c'est les amphibiens sont donc présentent une diversité de traits merveilleux, on vient de l'aborder assez rapidement, mais ils sont aussi très connus comme animal de laboratoire parce que ils présentent en effet des caractéristiques qui permettent aux scientifiques d'étudier différents traits, et un qui a été très étudié et qui l'est encore, c'est évidemment le développement. Donc les amphibiens pondent des œufs, donc ces œufs se développent à l'extérieur des individus. Donc comprendre, ce sont des vertébrés, donc ils sont proches de nous. Donc comprendre comment se développe l'œuf, c'est évidemment une des grandes questions de la biologie depuis de très nombreuses années. Comment à partir d'une seule cellule, on arrive à faire des organismes aussi différenciés qui ont autant de types cellulaires? Comment se fait-il que, à un moment donné dans l'embryon, eh bien, il y ait des cellules qui se mettent à se développer et fabriquer un foie, et puis d'autres fabriquer un œil? Voilà des questions très très fondamentales, et les amphibiens ont beaucoup donné pour la réponse. Ils ont été utilisés, et ils sont utilisés comme animal de laboratoire. On a parlé de l'axolote, on peut parler du xénope.
On va y revenir sur ces utilisations. Voilà. On va revenir sur, j'aimerais juste qu'on dise un mot sur les mécanismes de métamorphose, c'est-à-dire vraiment sur le passage du tétard à la phase adulte. Comment est-ce qu'on passe finalement de ces animaux qui vivent en milieu aquatique avec des branchies à des poumons qui sont des poumons faits et utilisés pour la vie terrestre? Comment est-ce qu'on bascule finalement? Comment est-ce qu'on traverse autant de stades différents dans l'évolution, une sorte d'évolution finalement ramassée à l'échelle de la vie d'un individu?
Alors, donc, il y a évidemment, donc, dans ce développement, la fabrication des poumons est antérieure au passage au milieu terrestre. Hein, l'embryon, le jeune, le tétard anticipe ce passage. Hein, dans les derniers stades de développement du tétard, quand il a quatre pattes, eh bien, là, il commence à développer ses organes qui vont lui permettre de vivre en milieu terrestre. Tout ça est évidemment sous un codage génétique, pondéré par un système hormonal, hein, très, très important. Tout l'axe hypothalamo-hypophysaire a été très étudié grâce à ce développement de la métamorphose, hein, les signaux envoyés par le cerveau qui agissent sur la sécrétion des hormones qui permettent, ben voilà, la mise en route du développement de certains organes ou les modifications de certains organes. On voit bien que l'épiderme, par exemple, hein, c'est vraiment le contact entre l'animal et puis son milieu environnant. Et bien, cet épiderme va complètement se transformer quand l'animal va passer à une phase terrestre. Hein, nous, on a un épiderme avec une phase cornée qui nous permet de résister aux agressions du milieu environnant. Et bien, au moment de la métamorphose, ben, l'épiderme va acquérir justement ces couches cellulaires cornées qui va lui permettre à résister à cet environnement. Donc tout le codage, la succession de la mise en route des gènes impliqués dans l'expression de nombreux paramètres, et puis les différentes cascades d'hormones qui concourent à cette métamorphose ont été découverts chez les amphibiens.
Alors justement, puisque vous parlez d'hormones, on va voir que, comme vous le disiez, les amphibiens ont passionné pas seulement les naturalistes, mais la médecine s'est aussi très vite intéressée à ces animaux pour leurs vertus en tant que modèle clinique. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous avez cherché justement à comprendre pourquoi les amphibiens sont utilisés en endocrinologie.
Et c'est Laurent Sache qui m'en a parlé. Laurent Sache, il est directeur de l'unité physiologie moléculaire et adaptation au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il nous raconte comment l'étude de la thyroïde au cours du développement chez les amphibiens peut nous en apprendre plus sur la compréhension de certains mécanismes liés au développement chez les vertébrés au sens large. Mais c'est pas tout, ces travaux de recherche peuvent aussi nous aider à comprendre les phénomènes d'adaptation à certaines perturbations endocriniennes, que ce soit un stress donné ou bien des perturbations liées à la présence de certains perturbateurs endocriniens dans notre environnement.
Les amphibiens, c'est des modèles assez particuliers. Il y a une très très grande diversité, on ne s'en rend pas réellement compte. Des diversités dans les cycles de vie, dans les processus d'adaptation. Ils ont aussi une très forte capacité à s'adapter, mais dans un autre sens, ce sont des espèces en voie de disparition. Donc c'est un peu étrange d'avoir ce double aspect qui est cette forte capacité d'adaptation et en même temps le fait qu'il y a déjà presque 30% des amphibiens qui ont disparu et 30% qui sont en voie de disparition. Alors nous on s'intéresse aux réponses moléculaires et cellulaires lors de changements environnementaux. Essayer de comprendre comment ces changements vont affecter la physiologie de l'animal. Donc pour ça, on regarde plusieurs aspects. D'abord les changements d'écosystème, c'est-à-dire quand un animal passe d'un écosystème à un autre écosystème, comme le passage de l'eau à l'air, ou aussi les changements dans les écosystèmes, et en particulier l'influence de l'homme sur ces écosystèmes. Alors ça peut être soit présence de polluants, soit des stress qui peuvent entraîner des changements au niveau des animaux.
Alors, pour ce qui est des amphibiens, vous étudiez quel type d'amphibiens vous étudiez, quelles espèces, et pourquoi ce choix d'espèces et de types d'amphibiens?
Alors, on regarde différents types d'amphibiens. On a deux catégories particulières qui sont les anoures, donc c'est les grenouilles, qui vont avoir plusieurs phases de développement, donc embryonnaires, puis ensuite larvaire, et après il y a la métamorphose qui va les transformer en grenouilles. Mais on a certains anoures qui ont la particulier de pouvoir directement éclore sous forme de grenouille. Donc on n'a plus la phase larvaire qu'on voit généralement dans les mares. Voilà. Et nous on s'intéresse à voir qu'est-ce qui fait que certains ont adopté ce type de développement et d'autres ont adopté un autre développement classique de phase tétard et puis qui se transforme en grenouille.
Alors quel type d'expérimentation, en quoi elle consiste justement cette méthodologie que vous pratiquez ici et à quel type d'expérience vous pratiquez?
Alors au niveau des expériences qu'on pratique, on place en fait les animaux dans des situations soit de présence de perturbateurs, donc de molécules chimiques qui pourraient influencer leur adaptation, soit parfois quand il s'agit de provoquer un stress, eh bien on met tout simplement l'hormone du stress qui nous permet d'être le déclencheur du processus de réponse à ce stimulus extérieur. Nous, on regarde ça à plusieurs niveaux. On va de la molécule en passant par la cellule, l'organe et l'organisme, et on regarde à ces différents niveaux ce qui se passe. Pour ce qui est du niveau moléculaire, maintenant on va de plus en plus avec des techniques de très haut débit qui nous permettent de voir à l'échelle du génome. Et donc on va voir jusqu'à comment le génome est exprimé en fonction des différentes conditions physiologiques qu'on applique à l'animal. Et on fait des comparaisons et on regarde à ces différentes échelles qu'est-ce qui varie. Ce qui nous permet d'avoir une idée, si on voit un changement dans le comportement de l'animal ou dans sa forme, eh bien de pouvoir mettre ça en relation avec ce qui se passe au niveau de son génome.
Vous travaillez notamment sur un petit organe qui est la thyroïde, je crois, chez les amphibiens. Alors pourquoi cet organe-là? Pourquoi les amphibiens constituent un modèle particulièrement intéressant en lien avec cet organe-là? Et ensuite, quel parallèle vous pouvez établir avec l'être humain? Parce que quand on pense au modèle animaux, on pense facilement à la souris, à la drosophile. Pourquoi l'amphibien dans ce cadre-là est particulièrement intéressant?
Alors la thyroïde, parce qu'il y en a besoin chez tous les chordés, et donc on retrouve une thyroïde chez tous les vertébrés. Et il y a des moments dans le développement où c'est particulièrement important. Il y en a besoin tout au long de la vie, n'importe comment, mais il y a des moments où c'est encore plus important. Et il a été remarqué que au moment de la naissance chez les vertébrés, donc comme chez l'homme, ou au moment de la métamorphose chez les amphibiens, il y a absolument besoin de cette hormone. Donc on a vraiment une conservation au cours de l'évolution d'une période qui est sensible aux hormones thyroïdiennes et indispensable au bon développement. En absence d'hormones ou avec des niveaux qui sont pas normaux, eh bien, on se retrouve face à des pathologies. Première chose, une chose qu'on a pu voir, c'est on sait que nos amphibiens, au moment de la métamorphose, sont sensibles aux hormones thyroïdiennes. On sait aussi que l'hormone du stress va aussi avoir son importance, qui va permettre de contrôler la vitesse de développement de l'animal, de manière à s'échapper du stress. Et donc, on a essayé de regarder qu'est-ce qui se passait au niveau moléculaire, qu'est-ce que provoquait une hormone et qu'est-ce que provoquait l'autre hormone. Donc on a pu avoir ce dessin-là, et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dès qu'on met les deux hormones? Est-ce qu'on va avoir une addition des deux signaux, ou alors est-ce qu'on va avoir cette addition-là et d'autres signaux supplémentaires? Et en fait, on a découvert d'autres signaux supplémentaires. Ce qui veut dire qu'on n'a pas qu'une simple addition, on a aussi autre chose qui se passe. Et cette autre chose qui se passe a beaucoup d'importance, parce que c'est dans cet aspect-là qu'on va avoir tout l'aspect de balance entre le coût et le bénéfice de l'adaptation. Parce qu'on sait très bien que dans un processus d'adaptation, certes l'animal va survivre, mais au niveau énergétique et au niveau du processus, eh bien, il y a dans la plupart des cas un coût qui va s'exprimer beaucoup plus tard. Et en regardant ce qui se passe à cette période-là, eh bien, on peut essayer de commencer à définir dans cette balance qu'est-ce qui va aller plutôt vers les coûts et qu'est-ce qui va aller plutôt vers le bénéfice, de manière à pouvoir par la suite y remédier, s'il est possible d'y remédier.
Alors ça, c'est des enjeux passionnants, mais des enjeux qui nous concernent nous aussi, humains. Est-ce que du coup, vous faites l'aller-retour permanent entre l'étude de l'humain, l'étude des amphibiens?
Oui, tout simplement parce que le fonctionnement des hormones thyroïdiennes est exactement le même chez les humains et chez les amphibiens. L'hormone, c'est une petite molécule qui est similaire et ça fonctionne par le biais de récepteurs qui fonctionnent exactement de la même manière entre ces différentes espèces. Au niveau des impacts, il y a plusieurs aspects. On va pouvoir mieux comprendre les désordres biologiques. Potentiellement, à partir des données moléculaires, avoir des marqueurs biologiques qui permettent de pouvoir faire des tests et savoir si un animal a subi ou pas un stress, ou s'il va développer un phénotype particulier par la suite, le côté balance coût-bénéfice. Et en même temps, le fait d'avoir cette information, de savoir s'il va se passer ou pas quelque chose, eh bien, ça peut être des informations importantes pour les décideurs, de manière à mettre en place les lois qui vont permettre d'empêcher les effets adverses du type de changements environnementaux auxquels on pourrait faire face.
Voilà, le reportage du jour sur les études liées notamment aux mécanismes endocriniens, aux perturbateurs endocriniens sur des populations d'amphibiens. Une réaction, Françoise Cercolès, que vous venez d'entendre?
Ah bah oui, ça me fait tout de suite penser notamment à l'axolote qui était utilisé il y a plusieurs dizaines d'années de ça comme modèle pour les femmes enceintes. C'est-à-dire que on utilisait notamment l'axolote pour savoir si la femme était enceinte ou non. À savoir, donc on lui injectait notamment de l'urine féminine et si la femelle xénope pondait.
C'est une xénope, hein, axolote. C'était Xénope.
Xénope, oui.
Vous avez dit Axolotl.
Ah, j'ai dit Axolotl. Ouais,
non, c'était Xénope.
Ah, flûte. Ouais. Et en plus, je pensais à Xénope.
C'était Xénope, oui.
Et donc, du coup, ça servait donc de test de grossesse notamment pour les femmes.
Claude Millot, est-ce que une réaction aussi à ce reportage?
C'est une bonne illustration des applications évidemment potentielles de ces modèles biologiques. Hein. Il était dit que la physiologie de l'amphibien et de l'homme sont très proches. Hein. Donc c'est la raison de ces utilisations. On pose souvent les questions de justement quelles découvertes ont été faites chez ces amphibiens qui soient utiles à l'homme, hein, parce qu'on a cette vision assez utilitariste. Donc il y en a plusieurs, hein, je peux vous en citer quelques-unes. Mais il y a aussi l'aspect qui a été dit tout au début du reportage sur le côté un petit peu paradoxal entre le fait que les amphibiens peuvent s'adapter. En quelque sorte, ils sont susceptibles de répondre, et puis à des changements environnementaux, hein, naturels, mais évidemment aux changements environnementaux liés aux activités humaines, et puis le fait qu'il y ait de nombreuses espèces qui disparaissent, hein, actuellement, ou qui soient en danger.
Ce que j'appelais le paradoxe de la grenouille tout à l'heure en introduction.
Ouais. Alors, moi j'aime bien le fait qu'on utilise aussi les amphibiens un peu en analogie avec les canaries qu'on utilisait autrefois dans les mines de charbon pour prévenir d'un coup de grisou, hein, le canari étant plus sensible à la baisse de l'oxygène que l'homme, et donc quand les canaries dans les cages commençaient à mourir, c'était mauvais signe, hein, ça voulait dire qu'on était proche d'un coup de grisou. Eh bien, les amphibiens, c'est un petit peu ces canaries de l'environnement, ils sont là, mais quand il commence à se passer quelque chose, eh ben ça veut dire que l'écosystème est en danger quelque part, hein, donc il y a un stress, il y a une modification, une introduction de produits ou une modification un peu plus générale de cet environnement qui impacte les amphibiens et qui nous préviennent que, attention, l'état de santé de ces écosystèmes est peut-être en danger.
De facto, on sait, hein, aujourd'hui, il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement, les amphibiens sont les premières victimes et sont très sensibles à l'introduction notamment de produits phytosanitaires, aux effets de perturbations endocriniennes, comme on vient de l'entendre, enfin que c'est des organismes qui réagissent très très vite et qui sont un peu, comme vous le dites, des marqueurs de la modification de ces écosystèmes, Claude Miot.
Oui, le fait de vivre à la fois dans l'eau et sur Terre les expose à toutes ces sources, hein, de contamination, si on reste que sur des aspects de polluants. Donc dans l'eau, hein, les activités agricoles ou industrielles font que tous les rejets sont susceptibles de s'écouler vers les endroits où ils se reproduisent. Donc on va voir, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont des œufs qui se développent dans le milieu, hein, donc des œufs, c'est quand même des cellules sensibles, hein, donc on peut avoir des pertes des mortalités embryonnaires très fortes. Puis après, les têtards doivent se développer dans ce milieu aquatique. Là aussi, on peut avoir de la mortalité directe ou indirecte. Hein. Si on a trop de molécules organiques dans un milieu, on va avoir un développement algal, on va avoir une eutrophisation de l'eau et des modifications de l'écosystème qui peuvent être défavorables à ces amphibiens. Et puis évidemment, en milieu terrestre, et si les petits individus sont soumis à des traitements phytosanitaires dans les champs ou à proximité des champs dans lesquels ils vivent, eh bien évidemment, cela peut provoquer de la mortalité directe également. Donc oui, ils sont des bons indicateurs des pressions subies par les environnements dans nos pays.
Et les pressions, elles sont grandes, autant dans l'introduction, on l'a entendu, comme vient de le dire Claude Miot, de produits phytosanitaires, dans la destruction des habitats, qui est une des premières sources de disparition de ces espèces. Et c'est une espèce qui est très très fortement menacée par l'anthropisation, hein, des écosystèmes. Hein. Je crois qu'en France, les amphibiens, c'est la première espèce en termes de nombre d'espèces menacées. Je pars sous votre contrôle, François Cercollet, on en découvre beaucoup, mais on en découvre, et c'est des espèces qui sont d'ores et déjà, immédiatement au moment de leur découverte, classées comme espèces en danger d'extinction.
Oui, et c'est vrai que ça, malheureusement, c'est valable pour la plupart des espèces, c'est qu'on voit de plus en plus la destruction de la nature, on voit de plus en plus la fragmentation des habitats, on voit de plus en plus l'homme grignoter notamment les espaces sauvages, et c'est vrai que on comprend bien que si une mare est comblée, donc si on détruit une mare qui est un lieu de reproduction, les populations qui s'y reproduisent, elles vont disparaître obligatoirement. On comprend également que si vous avez une mare, je sais pas, à l'est d'une route et puis la forêt à l'ouest de la route, et que ben pour pouvoir se reproduire, les animaux doivent obligatoirement traverser la route. Si c'est une autoroute, ils ne peuvent pas traverser, donc là on est vraiment dans la fragmentation des habitats. Et s'ils peuvent traverser, là ils vont se faire écraser.
D'où l'importance des crapauducs, ce qu'on appelle les crapauducs, qui sont installés de plus en plus souvent, en tout cas en France.
Alors surtout actuellement où les associations donc cherchent des bénévoles, installent notamment ces dispositifs temporaires donc le long des routes, à savoir que et on creuse donc de chaque côté de la route donc une tranchée où on va installer donc une bâche notamment en plastique, de façon à couper la route finalement à l'amphibien qui veut traverser la route justement. Et là, ben, il est amené progressivement vers des seaux qui sont installés, qui sont creusés, et puis on installe un seau. L'animal va tomber dedans, et du coup, il est coincé, il peut pas traverser la route. Et là, tous les matins, il y a des bénévoles qui se lèvent et qui vont notamment récupérer donc les amphibiens qui sont dans le seau. Ils vont les sexer, ils vont les identifier.
Ça permet de faire du comptage aussi,
ça permet
de la recension.
Du comptage, etc. Ça permet de quantifier notamment la population et de savoir également donc les espèces qui y vivent. Et ils vont faire traverser notamment ces animaux dans un sens, mais ils vont les faire retraverser aussi dans l'autre sens. Donc franchement, chapeau à eux.
Ça, c'est pour les crapaudromes installés effectivement par des associations. Il y a quelques départements aussi sur plusieurs routes qui installent des crapauducs, qui sont des petits conduits mais qui servent pour les crapauds, mais pas uniquement, pour un certain nombre d'espèces, des petits mammifères aussi qui sont fixes et qui permettent de traverser sans avoir à passer sur la route et risquer de se faire écraser. Un mot peut-être rapide aussi, Claude Milliot, à propos d'une épidémie, d'une zoonose qui a beaucoup inquiété la survie des amphibiens. J'ai lu 30% des espèces mondiales infectées en 2004. La chytridiomycose, dont on a longtemps pensé que les herpétologues étaient l'un des responsables de la dissémination. Il s'avère aujourd'hui que ça n'est pas le cas, mais tout de même, il faut être vigilant à ce propos, Claude Milliot.
Oui, alors quand on parle des amphibiens, je dirais hélas, on en vient souvent à des problèmes de pathogènes, en particulier de ces chytridiomycoses. Donc ce sont en effet des champignons qui se développent sur l'épiderme des amphibiens et qui, pour certaines espèces, sont susceptibles d'être pathogènes. Alors cette histoire de la pathogénicité, c'est un ménage à trois. Hein. Donc il y a le champignon lui-même qui est plus ou moins donc pathogène, il y a l'amphibien qui est plus ou moins résistant, et puis il y a l'environnement dans lequel ils vivent, où eh bien, il peut y avoir des cofacteurs, la température, l'exposition aux polluants par exemple, qui sont susceptibles d'augmenter la virulence ou la moindre résistance de l'amphibien. Alors on en connaît plusieurs pathogènes, et pour rester sur ces pathogènes champignons de l'épiderme, on connaît deux espèces, donc l'une s'appelle Batrachochytridium dendrobatidis, c'est une espèce qui a beaucoup inquiété les scientifiques dans les années 90, je dirais, parce que on découvrait des mortalités massives dans des endroits où toutes les causes dont on a parlé précédemment, qui sont les causes principales quand même de disparition des amphibiens, en particulier les activités humaines. Françoise l'a bien dit, hein, si on détruit l'environnement, et bien on détruit les espèces qui y vivent.
Hein. Fragmentation des habitats, oui, on en a parlé beaucoup.
Voilà. Dans le monde entier, c'est vraiment la cause principale de la disparition des amphibiens. Mais là, on voyait disparaître des mortalités dans des parcs nationaux, en Afrique du Sud, au Panama, en Australie, dans des endroits où justement il y avait des efforts pour éviter ces causes principales de mortalité.
En un mot, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, Claude Milliot, je vous laisse conclure rapidement.
On y a découvert justement ces pathogènes, et pourquoi est-ce qu'on a découvert ces pathogènes à cette période-là, et qu'ils n'existaient pas avant? Mais on s'est rendu compte que c'était un problème de transport, justement en lien avec les activités humaines, d'amphibiens. Il y a beaucoup d'échanges entre certains pays avec ces amphibiens. On l'a dit pour les aspects médicaux, pour les aspects de la recherche, mais aussi pour les aspects de la consommation. Il y a encore beaucoup de pays qui consomment des amphibiens. Eh bien, ce commerce international a favorisé le transport à longue distance de ces pathogènes.
Voilà, ce sera malheureusement le mot de la fin parce que le sujet est passionnant, mais on aura l'occasion d'y revenir, peut-être en prenant des espèces plus particulièrement, ou faire une émission complète sur l'axolote ou sur la salamandre. On aura l'occasion d'y revenir. Un mot, faites attention attention si vous êtes amateur de cuisses de grenouille à ne pas manger n'importe quoi, parce que on apprend que contrairement à ce que l'on imagine, ces grenouilles ne sont pas forcément des grenouilles d'élevage, mais peuvent être des grenouilles sauvages, indigènes, notamment venues d'Indonésie. Donc surveillez bien ou demandez l'origine des cuisses de grenouilles que vous mangez, parce que ça contribue aussi à la disparition de ces espèces. Je parle sous votre contrôle, François Sercollet.
Ah, moi, je mange pas mes congénères.
Vous êtes donc, mais vous n'êtes pas une grenouille, François Sercollet. Vous êtes un être humain. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler des amphibiens.
Merci à vous.
Vous, François Sercollet, merci Claude Millau d'avoir été en ligne avec nous depuis Montpellier. Je rappelle, François Sercollet, un ouvrage Grenouille, Crapaud et compagnie, cette édition Coé. On a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission, vous l'avez amené. C'est un très beau livre sur les grenouilles et sur les crapauds. Dans une semaine, je vous l'annonce, c'est un mardi exceptionnellement, d'habitude c'est le samedi, mais là c'est mardi 19. C'est le forum L'année France Culture vu par les savoirs, le deuxième de l'année. Le thème pour ce deuxième forum, c'est le nouvel âge de la politique. Pour ce qui nous concerne, eh bien, nous serons en direct du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne de 11h à midi sur le thème algorithme. S'agit-il d'un renouvellement ou d'un péril pour la démocratie? Vous pouvez vous inscrire, comme d'habitude c'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Élise Lé aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, nous remonterons aux origines de notre univers et même au-delà. Existe-t-il un univers miroir? Où est passée l'antimatière après le Big Bang? Bouclez bien votre ceinture spatio-temporelle parce que nous parlerons de la symétrie CPT. Ça va être complexe, mais ça va être passionnant demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.